Bonjour à toutes et à tous. Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 6 septembre 2024, en direct de Washington, Rosine Monezero. Pour commencer, les titres. L'activité économique a tourné au ralenti hier jeudi à Conakry, alors qu'un appel à manifester pacifiquement lancé par l'opposition a été peu suivi. Environ 24 millions d'électeurs algériens sont appelés à voter demain samedi à la présidentielle. L'ONU a condamné hier le meurtre violent de l'athlète ougandaise Rebecca Cheptegei, brûlée vive par un homme présenté comme son compagnon. Aux États-Unis, les autorités judiciaires ont annoncé hier des poursuites contre 5 agents du renseignement militaire russe. Et dans notre partie magazine, les premiers vaccins contre le Mpox sont arrivés en République démocratique du Congo.
Il fallait d'abord recevoir le vaccin eux-mêmes pour pouvoir finir la micro-planification. Donc nous avons une petite semaine pour finir la micro-planification. Donc d'ici 10 jours, on va commencer la vaccination.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Kenya, au moins 17 élèves ont été tués dans un incendie qui a ravagé le dortoir de leur école dans le centre du pays, a annoncé vendredi la police. L'incendie à l'académie Hillside en Darasha du comté de Nyeri s'est déclaré vers minuit, a indiqué la police, sans préciser l'âge des victimes. D'autres corps seront probablement retrouvés une fois terminé l'inspection des lieux de l'incendie, a estimé la police. La cause de l'incendie reste inconnue, a-t-elle précisé, mais une enquête a été ouverte. L'activité économique a tourné au ralenti hier jeudi à Conakry, alors qu'un appel à manifester pacifiquement lancé par l'opposition a été peu suivi, 3 ans après la prise de pouvoir des militaires en Guinée. Le point avec Eric Manilakid.
Ce mouvement de contestation visait à dénoncer la répression de la junte envers les dissidents, à rétablir les libertés et à exiger le retour à un régime civil avant la fin de l'année. Les rues ont été calmes, les forces de l'ordre ont été massivement déployées dans la capitale et la pluie a dissuadé toute mobilisation. La répression des manifestations interdites a fait 47 morts entre septembre 2021 et avril 2024, selon Amnesty International. Malgré les engagements du général Mamadi Doumbouya, le pouvoir militaire semble s'éloigner de la promesse d'une transition d'ici fin 2024. Le Premier ministre a évoqué un référendum constitutionnel à venir sans date précise. Les disparitions récentes des deux opposants du FNDC ont suscité des inquiétudes. Leurs familles ainsi que l'ambassade des États-Unis et Amnesty International réclament des réponses. Mais le procureur général nie toute implication des autorités.
Un Rwandais de 75 ans a été condamné à 20 ans de prison pour complicité lors des massacres perpétrés pendant le génocide des Tutsis au Rwanda de 1994, ont rapporté jeudi des médias officiels. Venant Rutunga avait été extradé des Pays-Bas vers le Rwanda en 2021, où il a été jugé sur des accusations de massacre qu'il aurait ordonné. Il y a plus d'un quart de siècle, l'accusé faisait initialement face à 3 chefs d'accusation, génocide, complicité de génocide et complicité d'extermination en tant que crime contre l'humanité. En Côte d'Ivoire, plusieurs activistes de la cause LGBT ont exprimé jeudi leur inquiétude après une vague d'agressions homophobes, verbales et physiques alimentées par les réseaux sociaux qui visent les personnes homosexuelles ou transgenres. Depuis un mois, 5 plaintes contre ex ont été déposées pour coups et blessures ou injures ce mois-ci, rapporte Brice Donald Dibaï, 32 ans, fondateur de l'ONG Gromo, l'une des plus actives de la communauté dans le pays. La vague de haine a démarré sur les réseaux sociaux début août, après des rumeurs dénonçant un cas de pédocriminalité qui aurait impliqué une personne homosexuelle. L'ONU a condamné hier le meurtre violent de l'athlète ougandaise Rebecca Cheptegei, brûlée vive par un homme présenté comme son compagnon dans l'ouest du Kenya. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Aujourd'hui, je veux prendre un moment pour évoquer la mort tragique d'une personne qui illustre un problème plus large, trop souvent ignoré. C'est ce qu'a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU, avant de décrire la mort de la marathonienne de 33 ans, Rebecca Cheptegei. nous nous joignons au Fonds des Nations Unies pour la population et à l'ONU Femmes pour condamner fermement son meurtre violent, a ajouté Stéphane Dujarric. Il a affirmé que les violences basées sur le genre sont une des violations des droits humains les plus répandues dans le monde et devraient être traitées comme telles. Le porte-parole du patron de l'ONU a évoqué des chiffres onusiens, estimant que toutes les 11 minutes, une femme ou une fille est tuée par son partenaire ou un membre de sa famille quelque part dans le monde. Rebecca Cheptegei, qui avait participé au marathon des Jeux Olympiques de Paris, est morte hier au Kenya. Elle avait été hospitalisée dimanche après avoir été arrosée d'essence et brûlée vive chez elle par un homme présenté par la police comme son compagnon.
14 élèves et leurs professeurs ont perdu la vie dans la nuit de mercredi à jeudi dans des pluies torrentielles qui ont touché la province du Ouadaï, dans l'est semi-aride du Tchad, a annoncé la primature. Selon le gouvernement de la province, les intempéries ont provoqué l'effondrement d'une maison, entraînant la mort de 15 personnes, dont 14 enfants talibés et leur marabout Miou. Au moins 54 personnes avaient perdu la vie dans des inondations qui ont affecté la province de Tibesti dans l'extrême nord désertique du Tchad. Environ 24 millions d'électeurs algériens sont appelés à voter demain samedi à la présidentielle. Le chef de l'État sortant, Abdelmadjid Tebboune, est donné largement favori à sa propre succession. Les détails avec Dili Diko.
La seule inconnue de cette élection est le taux de participation. L'abstention a battu des records, près de 60%, à la présidentielle de 2019, remportée par M. Tebboune. Le scrutin s'est tenu pendant les manifestations massives pro-démocratie du Hirak. Alors que son mandat devait s'achever en décembre, M. Tebboune a annoncé en mars la tenue d'une élection présidentielle anticipée le 7 septembre. M. Tebboune, 78 ans, par favori. Il est soutenu par quatre formations qui ont scellé une alliance, dont l'ancien parti unique, le Front de Libération Nationale, et le mouvement islamiste Elbina, arrivé deuxième à la présidentielle de 2019. Le deuxième concurrent, Abdelali Hassani, un ingénieur des travaux publics de 57 ans, est le président du principal parti islamiste, le Mouvement de la Société pour la Paix, qui a refusé de participer au dernier scrutin. Le troisième, Youssef Akouchi, ancien journaliste et sénateur de 41 ans et depuis 2020, le chef du Front des Forces Socialistes, un parti d'opposition historique. Les trois candidats ont axé leur discours sur les questions socio-économiques, promettant d'améliorer le pouvoir d'achat et de redresser l'économie afin qu'elle soit moins dépendante des hydrocarbures.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Aux États-Unis, les autorités judiciaires ont annoncé hier des poursuites contre 5 agents du renseignement militaire russe pour leur implication présumée dans une cyberattaque ayant visé des sites gouvernementaux ukrainiens en préparation de l'invasion de l'Ukraine en 2022. Le point avec Michel Joseph.
L'acte d'accusation vise ces 5 agents du service de renseignement militaire russe et un civil russe présenté comme un hacker de 22 ans, Amin Timovich Stigal, déjà inculpé en juin. Ces 6 personnes sont responsables d'une série d'attaques informatiques destructrices désignées sous le nom de Whispergate, a déclaré Matthew Olson, ministre adjoint de la Justice, chargé de la Sécurité nationale. Cette attaque a visé des infrastructures civiles et des systèmes informatiques ukrainiens, sans aucun lien avec l'armée ou la défense nationale, a-t-il ajouté. Ils ont ensuite ciblé des systèmes informatiques dans d'autres pays soutenant l'Ukraine, soit 26 partenaires de l'OTAN, dont les États-Unis, a précisé M. Olson. Le département d'État offre une récompense allant jusqu'à 10 millions de dollars pour des informations menant à l'arrestation de chacun des accusés. L'annonce de ces inculpations survient au lendemain de 16 sur des poursuites pénales et sanctions après des tentatives d'ingérence dans les élections américaines imputées à la Russie.
Toujours aux États-Unis, la juge au procès de Donald Trump pour tentative illicite d'inverser les résultats de l'élection présidentielle américaine de 2020 a fixé jeudi de nouvelles échéances pour les deux mois à venir, y compris au-delà du jour du scrutin de novembre. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, la minute éco avec John Lindon.
La banque commerciale ivoirienne Mansa Bank a procédé le 4 septembre à la conclusion d'un nouvel accord de prêt de 22,1 millions de dollars avec la Banque d'investissement et de développement de la CDAO. La facilité sera, selon l'agence Ecofin, rétrocédée à des entreprises privées ivoiriennes évoluant dans des secteurs tels que l'agriculture, l'agro-industrie, les services, l'énergie renouvelable, l'éducation et la santé. Plusieurs facteurs convergents suggèrent que la valeur de l'or sur les marchés financiers devrait continuer de progresser bien au-dessus de son niveau actuel de 2500 dollars l'once, un record jamais atteint sur les 30 dernières années. Dans ce contexte, la demande pour ce métal devrait croître, tandis que l'offre progresse à un rythme beaucoup plus lent, souligne l'agence Ecofin. Retour au hangar pour des A350. L'Union européenne va demander l'inspection en urgence d'au moins une partie de la flotte de ces longs courriers vedettes d'Airbus après l'incendie d'un moteur sur un appareil de Cathay Pacific. Alors que la compagnie hongkongaise avait évoqué une défaillance sur un moteur de Rolls-Royce lors d'un vol vers Zurich lundi, l'agence de l'UE pour la sécurité aérienne a, elle, souligné jeudi qu'il s'agissait d'un incendie d'un moteur en vol peu après le décollage lié a priori à des canalisations de carburant à haute pression défectueuses.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Ozine, bonjour à tous.
Suite ce vendredi des matchs de la première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025.
Huit de gros matchs au programme aujourd'hui. La République démocratique du Congo reçoit la Guinée. La championne d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire, affronte la Zambie à Boaké. Le Sénégal joue à domicile contre le Burkina Faso. Le Tchad fait face à la Sierra Leone. Le Togo accueille le Libéria et le Maroc le Gabon. L'Égypte reçoit le Cap Vert. Début réussi hier par la République centrafricaine qui a battu le Lesotho 3-1. Le Malawi a perdu 2-3 face au Burundi. 1-0 pour le Congo devant le Soudan du Sud. Le Ghana a été surpris à domicile sur le même score par l'Angola. 1-0 également pour la Guinée-Bissau, vainqueur de l'Iswatini.
Le Mali, lui, fait face au Mozambique ce vendredi.
27 joueurs annoncés au départ, ils seront 22 disponibles sur lesquels le tout nouveau sélectionneur Tom Sanfiet devrait compter. Notre correspondant à Bamako, Siaka Traoré, nous donne plus de détails.
8 joueurs, et pas des moindres, n'ont pas répondu à l'appel. Si des forfaits ont été signalés, des renforts l'ont été aussi. Même si la hache de guerre semble être enterrée entre la fédération et l'équipe nationale, dont son capitaine, Hamari Traoré, avait été suspendu par la fédération, les forfaits sont diversement interprétés par les supporters maliens. Hamari Traoré, il faut le rappeler, avait critiqué les conditions de voyage de l'équipe nationale contre Madagascar en Afrique du Sud au compte de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, ce qui lui avait valu une suspension. Siaka Traoré, Bamako, pour VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, Alex Morgan annonce sa retraite sportive.
L'attaquante de 35 ans, double championne du monde en 2015 et 2019, et championne olympique en 2012, a expliqué qu'elle jouerait son dernier match dans le championnat de football féminin américain avec son club de San Diego Wave. En 14 ans de carrière internationale, elle a marqué 123 buts, devenant la 5e meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe féminine américaine.
Et enfin, athlétisme, Letsile Tebogo brille encore à Zurich.
Le Botswanais, champion olympique du 200 mètres, a remporté hier soir le 200 mètres du meeting de la Ligue de Diamants de Zurich. Dans un temps canon, 19 secondes 55, Letsile Tebogo, qui poursuit depuis les JO son été doré en enchaînant les victoires de prestige en meeting, a pris la tête de la course dans les tout derniers mètres alors que l'Américain Kenny Bednarek, deuxième au JO, était encore devant. Au final, le jeune sprinter de 21 a coupé la ligne en 19 secondes 55, malgré des conditions pas idéales, 2 centièmes devant Bednarek.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Rosine Monetero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Guinée, cela fait 3 ans que les militaires ont pris le pouvoir avec une promesse du retour à l'ordre constitutionnel. Le général Mamadi Doumbouya, président de la transition, est à Pékin pour le forum Chine-Afrique, alors que dans la capitale, aucune manifestation n'est organisée à l'occasion de cet anniversaire. On fait le point avec notre correspondant Zakaria Camara.
Aucune cérémonie officielle n'a été organisée par les autorités guinéennes. Aucun manifestant contre la junte au pouvoir n'a été visible dans les rues de la capitale. Contrairement à l'appel à manifester lancé par les forces vives de Guinée, des acteurs de la société civile qui exigent la libération de 2 leaders du FNDC, Front National pour la défense de la Constitution. Les 2 disparitions relancent le débat sur l'exercice des droits de l'homme en Guinée. Alcéine Sall est le responsable de la communication de l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme.
Nous dirons quand même que nous sommes largement en deçà des attentes, en dépit quand même de quelques notes positives qu'il faut mettre quand même au compte du CNRD. Et comme vous le savez, en tout cas, un des éléments essentiels sur les questions des droits de l'homme sur lesquels on peut se féliciter ou noter le CNRD de manière positive, c'est d'avoir eu le courage politique d'organiser le procès dans l'affaire des massacres du stade.
3 ans de pouvoir militaire en Guinée, c'est un anniversaire avec un bilan à demi-teinte, explique le politologue Kabidé Fofana.
Ils ont pu mettre en place un avant-projet de constitution. Sur le plan économique, il y a le projet Simandou, par exemple, qui est lancé, qui est plus une perspective de développement et de possibilité de positionner la Guinée sur le plan économique. Mais quand vous regardez sur le plan politique, il y a des difficultés quant à au retour à l'ordre constitutionnel lié à un manque de volonté d'une manière très prégnante.
Un manque de volonté politique, estime le politologue, alors que le Premier ministre est issu de la classe politique.
Je pense que le Premier ministre est arrivé, je suppose, avec cette volonté véritablement de peser. Mais sauf que dès le départ, je pense qu'il n'a pas pu conditionner sa nomination à la possibilité d'arriver à créer cette dynamique inclusive et qui permette justement d'avoir tous les acteurs. Et là-dessus, je pense qu'en termes de volonté politique, il n'y a pas pu.
Plusieurs radios et télévisions ont été fermées par les autorités guinéennes. Le secrétaire général du syndicat professionnel de la presse de Guinée se dit inquiet.
Le bilan du CNRD en matière de la liberté de la presse, de la liberté d'expression et des droits de l'homme est totalement, sinon globalement négatif. Parce que quand vous prenez ces 3 ans de sa gestion, il n'y a que les 8 premiers mois qui ont été une période d'espoir pour les médias guinéens.
Les autorités de Conakry ont engagé plusieurs travaux de construction d'infrastructures, des actions en phase avec le premier pilier de la transition, selon le général Mamadi Doumbouya, président de la transition, à savoir l'économie. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum cette semaine. Coup de projecteur sur l'univers carcéral en Afrique, avec en toile de fond la mort tragique récemment de moins 129 détenus lors d'une tentative d'évasion dans la prison surpeuplée de Makala en RD Congo. Pourquoi les sempiternels problèmes tels que la surpopulation, les actes de violence et les délais de procédure interminables continuent-ils de gangrener les systèmes carcéraux africains? Y a-t-il une volonté réelle d'y remédier? Et quid de la vie après des années derrière les barreaux? Laissez vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h10.
Les premiers vaccins contre le Mpox donnés par l'Union européenne et fabriqués par un laboratoire danois sont arrivés aujourd'hui en République démocratique du Congo, épicentre de l'épidémie, qui doit recevoir au total 200 000 doses cette semaine. Edi Sango a joint à Kinshasa le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba.
Oui, on a reçu aujourd'hui un premier lot de 99 100 doses de l'Union européenne.
Est-ce que c'est suffisant? On apprend qu'il y a une autre aide de l'eau qui va venir.
Non, ce n'est pas suffisant, loin de là, parce que vous connaissez les besoins d'un pays de 100 millions d'habitants où nous devons vacciner pour au moins 3 millions de doses. Donc, le premier lot n'est pas suffisant. Mais, effectivement, nous recevrons la seconde partie de ce premier lot dans 48 heures pour faire un total de 200 000 doses.
Et quand allez-vous commencer la vaccination proprement dite?
Il fallait d'abord recevoir le vaccin eux-mêmes pour pouvoir finir la micro-planification. Donc, nous avons une petite semaine pour finir la micro-planification. Donc, d'ici 10 jours, on va commencer la vaccination.
Il se pose un problème d'électricité et de conservation. Avez-vous pris des mesures pour la conservation de ces vaccins et qui doit être surtout administré dans des coins reculés du pays?
Et vous savez que nous avons une grande expérience de cela, notamment avec Ebola. On a eu des vaccins qu'il fallait conserver très très froid. Et nous l'avons fait et nous avons vacciné. Et donc, nous avons une grande expérience de la logistique vaccinale pour des vaccins qui nécessitent effectivement beaucoup de précautions, notamment des températures très froides. Et donc là-dessus, la RDC a des grandes capacités, oui.
Là, c'est les vaccins qui viennent du Danemark, mais on parle d'un autre lot qui viendra du Japon. Quand est-ce qu'il pourra arriver?
Alors, nous avons fini toutes les négociations et toutes les correspondances qu'il fallait avec le Japon. Et nous attendons maintenant que les affaires étrangères du Japon communiquent avec nos affaires étrangères, les deux ministères, pour justement nous donner les détails de livraison de ces doses de vaccins.
Docteur Samuel Roger Kamba, le ministre de la Santé de la RDC.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24 heures sur 24 à Goma en RDC sur 87.2 FM.
Les États-Unis ont rejeté mercredi les inquiétudes selon lesquelles engager des poursuites pénales contre les dirigeants du Hamas pour l'attaque du 7 octobre en Israël compliquerait les négociations en cours pour parvenir à un accord de cessez-le-feu à Gaza en échange de la libération d'otages détenus par le Hamas. C'est un reportage de Patti Ouida-Koussouara, récit Lionel Gaïma.
Des victimes palestiniennes alors qu'Israël attaque le Hamas. Mercredi, l'armée israélienne a déclaré que 200 combattants du Hamas avaient été tués dans la ville de Rafah, au sud de Gaza. Un jour plus tôt, 6 dirigeants du Hamas ont été inculpés dans le cadre de l'attaque du 7 octobre en Israël par l'armée israélienne. Le ministre de la Justice, Mary Garland.
Pour avoir financé et dirigé une campagne de plusieurs décennies visant à assassiner les citoyens américains et à mettre en péril la sécurité des États-Unis.
Trois des dirigeants du Hamas inculpés, Ismaël Haniyeh, Marwan Issa et Mohamed Diaif, auraient été tués par Israël. Parmi les trois restants figure le principal dirigeant du groupe, Yahya Sinwar, qui joue un rôle clé dans les négociations en cours pour un cessez-le-feu en échange d'un accord de libération des otages. Alors que les manifestations se poursuivent en Israël pour réclamer un accord, l'administration Biden a rejeté les inquiétudes selon lesquelles l'inculpation compliquerait la conclusion d'un tel accord. Matthew Miller, porte-parole du département d'État.
Nous ne pensons pas que la publication de cet acte d'accusation puisse entrer en ligne de compte dans les calculs que le Hamas pourrait faire pour accepter ou non un cessez-le-feu.
Les accusations américaines ont été portées en février, mais ont été dévoilées mardi, quelques jours après que le Hamas a tué 6 otages alors que les forces israéliennes se rapprochaient. Parmi eux, un citoyen américain, Hersh Goldenberg-Pollen. Les accusations sont largement symboliques puisqu'il est peu probable que Sinwar et les autres soient arrêtés par les États-Unis. Mais d'autres actions américaines sont possibles. William Banks, professeur émérite à la faculté de droit de l'Université de Syracuse.
They can put pressure on our allies to try to secure.
Ils peuvent faire pression sur nos alliés pour qu'ils tentent de sécuriser tout membre du Hamas qui se trouverait dans une zone où il pourrait être détenu, voire arrêté. Et je pense que cette menace, à long terme, continuera à faciliter les efforts du Pacifique pour parvenir à des règlements au Moyen-Orient.
L'acte d'accusation américain vise également l'Iran et le Hezbollah libanais, pour avoir fourni un soutien financier et des armes pour les attentats du 7 octobre.
9 fois championne d'Afrique de lutte, la Sénégalaise Isabelle Sambou, qui a frôlé 2 médailles aux Jeux Olympiques de 2012 et 2016, est revenue dans son village natal pour former la prochaine génération de lutteuses. Des filles et femmes de Hermelope en Casamance pratiquent la lutte dans le cadre d'une tradition de plusieurs siècles. Nathalie Barge nous en dit plus.
Isabelle Sambou, 43 ans, a remporté 9 fois le championnat d'Afrique de lutte. Elle a représenté le Sénégal aux Jeux Olympiques de Londres et de Rio de Janeiro. De retour chez elle, elle entraîne les femmes de son village dans l'espoir d'aider à former la prochaine athlète olympique.
Et puis, dans mon village, les femmes luttent. C'est notre tradition.
La lutte est un sport national au Sénégal, où les lutteurs sont célébrés comme des stars. Mais dans la majeure partie du pays, la lutte est restée interdite aux femmes. Sauf ici en Casamance, où les femmes Diola luttent traditionnellement aux côtés des hommes.
Quand tu fais la lutte féminine, il y aura beaucoup de dire. Il y a les gens qui vont se moquer de toi, tout ça. Parce que moi, j'ai vécu ça quand j'ai parti à Géliensor pour lutter. Et quand je portais mes shorts, tout ça, de shorts. Et il y a des gens qui vont se moquer de toi. Il y a d'autres qui vont dire, hey, c'est là, c'est une femme ou c'est garçon.
Isabelle Sambou passe désormais son temps entre Dakar et son village natal, où elle entraîne des filles à la lutte. Ayant frôlé la médaille olympique à Londres en 2012 et à Rio en 2016, elle se dit déterminée à ce que l'une de ses jeunes recrues accède au podium.
Quand je suis arrivée jusqu'à présent, bon, j'ai pas de travail et je suis pas encore mariée, peut-être, je peux dire. Mais bon, c'est comme ça. C'est juste quand j'ai arrêté, je suis revenue ici, au village, parce que je me suis dit, c'est que je vais retourner chez moi pour aller trouver les futurs Isabelle, des futurs champions, ceux qui vont faire peut-être plus que Isabelle, parce que c'était mes souhaits d'amener la médaille au Sénégal.
La variante locale de la lutte s'appelle l'ambe en Wolof. Marie Sambou, 18 ans, dit avoir été inspirée par la lutte en regardant Sambou.
Elle a fait la lutte et moi je lui ai dit, bon, moi aussi je vais faire comme elle. Mais lorsque j'ai commencé à lutter, les gens disaient qu'ils n'ont jamais vu une fille. Mais moi, je n'ai jamais écouté parce que si je l'ai écouté, je n'allais même pas me retrouver là où je suis.
La lutte est partie intégrante de la vie du village depuis des siècles. Pour Isabelle Sambou, entraîner la jeunesse, c'est inspirer les championnes de demain, tout en préservant les traditions de son village.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Rosine Mounedero à son micro, à la mise en onde, Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir. Close your eyes and feel his lips, you're feeling